Aujourd'hui, l'histoire d'un apprenti en informatique qui est devenu ingénieur front-end à Canva, l'une des plus grosses startups australiennes. Thibaut, il travaille sur Sydney depuis 5 ans et il va nous partager plein d'anecdotes. Comment il a trouvé son apprentissage à Amadeus, comment il a failli ne pas venir en Australie à cause d'un problème de visa, et enfin nous parler de multiples projets sur lesquels il a travaillé, dont l'un qui lui a été utile lors de ses entretiens à Canva. Bref, une discussion passionnante avec le chapitrage en bas de la vidéo et en description. Vous êtes sur le podcast Discussion d'ingénieur. Merci et très bonne écoute.
Je m'appelle Thibaut, j'habite en Australie depuis maintenant plus de 5 ans. Je suis ingénieur en informatique, je suis spécialisé en front-end et je travaille à Canva. J'ai eu un parcours scolaire qui était très classique. Après le lycée, je savais déjà que j'avais envie de faire de l'informatique. J'ai toujours été un peu attiré par cet univers-là. J'ai toujours aimé bidouiller, si tu veux.
T'avais des trucs que t'avais bidouillé quand t'étais gamin, donc tu
te souviens. Très jeune, j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique, à apprendre les technologies comme des technologies web, genre l'HTML, le CSS, le JavaScript, et un petit peu de langage comme le C, qui m'ont permis de faire. Enfin, très jeune, j'ai essayé de faire des jeux vidéo. Bon, rien dont je suis fier aujourd'hui, rien qui est montrable, disons, mais ça m'a permis, dès mon plus jeune âge, de m'intéresser un peu à cet univers, de monter en compétences et d'apprécier un peu plus tout ça.
Moi, je me souviens, il y avait en prépa, on avait fait, alors à plusieurs, c'était pas moi tout seul, malheureusement, j'avais pas le niveau à l'époque, mais c'était le point culminant, c'était de faire sur la matrice, sur la calculette,
oui.
Des chiffres qui descendent comme dans Matrix, parce que c'était à la mode à ce moment-là, et juste des chiffres qui changent et qui descendent. Ouais. On était là, oh, c'est incroyable, sur la calculette, t'arrives à faire ça. Et...
Ouais, moi, j'avais fait des trucs sur calculette aussi, j'avais fait un tic-tac-toe que j'avais recréé. Via un tutoriel. Bon, bien après, sûr. C'était évidemment, c'était que des tutoriels. Il n'y avait pas beaucoup de créations originales, disons. J'en ai fait quelques-unes plutôt vers le lycée, quelques jeux originaux, mais encore rien qui.
Après, est-ce que c'est vraiment besoin d'être original au départ quand tu commences
Absolument pas. Je pense que c'est même, il n'y a rien de mal à suivre des tutoriels, de ne pas forcément avoir de projet. Tant qu'on aime apprendre, tant qu'on s'intéresse à ce domaine, on s'améliorera.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut mieux faire d'abord, surtout quand on est jeune. On fait des choses, en suivant les tutoriels peut-être, mais c'est en faisant qu'on apprend à les outils, l'IT, et on va y revenir. Et qu'ensuite, tu peux commencer à être un peu créatif dans ton domaine. Où, quand tu connais rien, comment tu vas être créatif quelque part où
Exactement.
Tu connais rien.
Bah, c'est d'ailleurs le maître mot de l'apprentissage. Hein. C'est de faire quelque chose plutôt que d'apprendre la théorie.
Ok, donc on revient justement sur, tu bidouilles quand t'es jeune, tu sais que tu vas aller dans l'IT, donc
Du coup, dès la fin du lycée, je m'oriente vers un IUT en informatique.
Ok.
J'avais pour projet initialement de faire des études courtes. À la fin de mon IUT, je m'aperçois que après des études courtes, ça reste un petit peu difficile de trouver un travail intéressant. La plupart des entreprises, tout du moins françaises, s'attendent à au moins un diplôme d'ingénieur. Bien évidemment, ça reste toujours possible de trouver du travail après un IUT. J'ai énormément d'amis de l'IUT qui ont réussi à trouver du travail directement à la sortie de l'IUT. Mais je pense que le diplôme d'ingénieur en France permet, comment dire, de kickstart, de mieux bootstrap son entrée en carrière. Du coup, après cette observation, j'ai essayé évidemment de rentrer en école d'ingénieur. J'avais fait une petite sélection des écoles d'ingénieurs qui offrait des études en apprentissage, vu que j'étais très intéressé par l'apprentissage. Même si j'avais envie de faire des études supérieures plus longues, j'avais aussi envie de développer des compétences, de travailler, de m'intégrer dans le milieu du travail. Et c'est pour ça que je voulais faire de l'apprentissage. Et parmi les écoles en apprentissage, j'avais repéré l'UTC, donc l'Université de Technologie de Compiègne, qui me paraissait être une des mieux cotées, avec un programme en apprentissage qui était... qui me semblait cohérent. Donc j'ai appliqué, j'ai fait une demande pour entrer directement à la suite de l'IUT. Seulement, les critères de sélection sont assez sévères. J'avais pas à la sortie de l'IUT, je n'avais pas le niveau espéré ou attendu. C'était juste simplement une histoire de classement.
C'est très très dur. En général, de mémoire... Après, ça dépend des écoles, mais c'est sûr qu'ils prennent le classement de l'école ou de l'IUT dans laquelle tu viens. Et c'est que tu es dans les 5 X premiers. Selon les écoles, ça varie de premier à dans les 5 premiers.
Ouais.
C'est très difficile.
Ça dépend de la taille de l'IUT et de la cote de l'IUT aussi.
Et donc toi, tu n'arrives pas à être pris à l'ETC du premier coup, donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te dis, parce qu'on sait que tu as été ensuite là-bas, mais comment est-ce que tu appréhendes la situation à ce moment-là?
Bah, je vois pas ça comme un échec, je vois ça comme un challenge. Du coup, je vais faire une année en licence. J'avais aussi hésité à faire une année en prépa. Donc, il y a certaines prépas qui offrent un parcours post-DUT. Mais j'ai repéré un petit peu cette possibilité trop tard. J'avais fait quelques demandes, mais rien n'a... Enfin, c'était trop tard pour être accepté. Les promos avaient souvent... Enfin, allaient commencer dans une semaine. Donc, j'ai fait une année en licence. Je trouvais ça très intéressant. Ça restait très proche de ce que j'avais appris en IUT, mais ça m'a permis du coup de plus facilement atteindre les places de la promotion qui m'ont permis d'être accepté à l'UTC.
Il fallait être dans les 5 premiers de la licence pour ensuite pouvoir postuler à l'UTC.
Alors je crois que j'étais classé 6e, donc à peu près, mais je pense que le fait que j'ai fait la demande deux fois m'a permis de...
Montrer que c'était vraiment motivé.
Montrer que j'étais motivé, oui.
Tu avais monté en compétence forcément en un an, ouais. Donc tu avais plus le niveau pour...
Exactement. Mais oui, je pense que ça reste une question de classement. Il y a aussi, donc pour rentrer à l'UTC, il faut donc avoir un classement correct et il faut aussi passer une série d'entretiens. Alors de mémoire, il ne me semble pas qu'il y ait d'entretiens techniques. Me semble que c'est principalement des entretiens sur, bah justement, il essaie de voir la motivation de la personne, est-ce que cette personne sera apte à réaliser toutes ses études, donc faire les 3 ans d'ingénierie en école d'ingénieur, est-ce qu'elle a les compétences techniques. Donc ça, c'est plus les compétences techniques, ils vont analyser ça par rapport au classement, par rapport aux notes, par rapport aux recommandations des professeurs. Donc forcément, j'étais allé voir plusieurs professeurs pour leur demander une lettre de recommandation.
Il y en a une sur ton LinkedIn, non? Toujours, je crois que je l'ai vu avant de
c'est
venir.
C'est possible qu'un de mes professeurs ait fait une lettre de recommandation sur LinkedIn.
J'ai vu ça, j'étais « Ah, bah, c'est marrant !» J'en avais demandé une aussi pour un programme, mais c'était il y a très longtemps. Et ça montre aussi l'intérêt d'être pas seulement attentif, mais si t'es vraiment engagé dans ce que tu fais, que ça te plaît vraiment, et à un moment donné, tu vas poser des questions, parce que forcément, tu es intéressé par le sujet, tu vas créer une relation avec des professeurs. Et c'est pas seulement académique, ça peut être utile ensuite pour les prochaines étapes, aussi bien si tu cherches un travail, avoir une lettre ainsi, bah, ça rend crédible. C'est-à-dire que toi, je l'ai vu tout à l'heure sur ton profil LinkedIn avant de venir, je me dis, bah, il était studieux. Alors, ça n'a peut-être rien à voir, ça se trouve, tu ne l'étais pas, mais je pense que tu l'étais quand même. Mais l'impression que ça donne à quelqu'un d'extérieur qui ne te connaît pas et qui veut juste avoir un aperçu, est-ce que je l'embauche ou pas, si je vois ça en bas de ton profil, je me dis, ah, au moins de base, il est studieux. Donc, moins de problèmes potentiels, donc plus employable.
Oui.
Alors, c'est un raccourci, bien sûr, mais les gens font toujours des raccourcis. Et ça a l'air de rien, mais je pense que c'est quand même des choses qu'on néglige aussi quand on est étudiant, l'importance que ça peut avoir ensuite.
Tout à fait. Et je pense même d'ailleurs que pour revenir à l'entretien, cet entretien pour une école d'ingénieur, c'est très similaire à un entretien pour un premier travail. Et du coup, quelque chose que j'avais travaillé avant cet entretien, c'est d'apprendre à mieux se vendre, à mieux montrer ses compétences via juste un discours.
Donc, les entretiens, c'est donc tu as appris un peu à te vendre à ce moment-là et tu entres à l'UTC, tu réussis ces entretiens.
Ouais.
Et tu vas trouver un apprentissage. Alors, j'ai l'impression que c'est toujours très difficile de trouver un apprentissage, où ça demande beaucoup de temps, d'efforts, d'énergie. Ça s'est passé facilement pour toi ou pas? Tu es allé chez Amadeus?
C'est ça. Alors, oui, je pense que ça peut être difficile de trouver un apprentissage parce que un contrat d'apprentissage vient avec beaucoup de contraintes pour une entreprise et. Je pense que c'était quelque chose que j'ai commencé il y a 8 ans maintenant, 8 ans ou 9 ans. Et à cette époque, l'apprentissage en école d'ingénieur, ce n'était pas quelque chose de très démocratisé. Donc les entreprises étaient peut-être un peu plus frileuses, disons. J'imagine ou j'espère qu'aujourd'hui, c'est moins le cas. J'espère que les entreprises sont plus à même de prendre des apprentis. Cela dit, à cette époque, ce n'était pas forcément le cas. Cependant, l'intérêt de viser une école d'ingénieur qui est un peu plus cotée et reconnue, c'est que les entreprises vont être très intéressées par recruter des ingénieurs de cette école. Donc forcément, l'une des façons de les recruter, c'est aussi de leur offrir un apprentissage. J'ai énormément bénéficié de ça. L'UTC avait organisé juste avant le début de l'année scolaire, ils avaient organisé un salon du travail, si tu veux, spécifique à l'UTC, où certaines entreprises venaient et présentaient un petit peu
c'est cool.
les rôles qu'ils offraient en apprentissage. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré une des recruteuses d'Amadeus. J'étais plutôt intéressé par ce qu'ils offraient, que ce soit sur le plan professionnel et aussi le plan personnel, vu que l'entreprise était située à Nice.
Oui. Alors, je connais Amadeus de nom. J'ai des étudiants qui étaient de ma promo qui sont allés là-bas en stage. Mm-hmm. Je connais aussi le nom parce que justement, c'est à Nice, donc c'est relativement prisé lorsqu'on est en stage étudiant à l'époque.
C'est vrai.
Par contre, est-ce que tu pourrais me rappeler ce qu'ils font un peu? Alors, de ce que je sais, ils font du conseil en IT ou c'est pas du tout ça?
Pas vraiment. Okay. C'est possible qu'ils fassent du conseil en IT. Ça reste une grosse entreprise, une grosse structure. Mais leur cœur de métier, c'est gérer des systèmes informatiques liés au voyage. Donc, si jamais tu réserves un avion, si jamais tu prends un avion, c'est fort probable que Amadeus soit gère le système de réservation de la compagnie aérienne ou même gère le système de gestion des avions, des stocks et de l'aéroport. Donc,
c'est vraiment une solution globale.
Alors moi, j'étais pas dans la partie ni aérienne ni aéroport, j'étais dans la partie rail, donc ferroviaire.
D'accord, ok.
Donc on travaillait avec on offrait un système clé en main de gestion, de ticketerie, de billetterie de train.
Et donc toi, par exemple, sur ce système de ticketerie, tu as fait 3 ans d'apprentissage, tu as toujours été dans la même team, tu as changé un peu, ça se passe...
J'étais dans le même groupe. Après, les équipes ont changé 2 ou 3 fois lors des 3 années où j'y étais. Mais globalement, je travaillais toujours sur ce projet-là.
Et ça ressemble à quoi alors, une mission ou quelque chose que tu devais faire quand tu étais alternant? Et je me demande vraiment parce que je ne connais pas du tout, donc est-ce que c'est typiquement ce que tu pourrais faire quand tu es en première année en sortie d'école et que tu fais un travail d'ingénieur, ou c'est un peu plus restreint? Comment est-ce que toi tu t'es retrouvé chez Amadeus? Est-ce qu'ils t'ont donné pas mal d'autonomie, de liberté? Enfin, c'est quoi l'exemple de mission sur laquelle tu travaillais?
Ouais, je pense que j'avais énormément d'autonomie au début, étant donné qu'à l'UTC, la façon dont ils gèrent l'apprentissage, c'est qu'au début, tu vas principalement faire tes études. Donc, ça veut dire que tu vas passer peut-être 3 mois d'affilée en études et quelques semaines en apprentissage, enfin en entreprise, puis 3 mois en études. Donc, c'était un peu particulier. Je travaillais très peu en entreprise au début. Et la deuxième année, je travaillais à peu près à mi-temps, un mois en entreprise, un mois en école. Et la troisième année, j'étais beaucoup plus, ça s'inversait, j'étais beaucoup plus en entreprise.
D'accord.
Et très peu en école. Donc la première année, j'avais des missions qui étaient très courtes. C'était juste un petit peu histoire de m'intégrer à l'entreprise, de comprendre un petit peu mieux leur cœur de métier, de rencontrer les personnes avec qui j'allais travailler sur les années suivantes.
Parce qu'ils savent, ils savent que c'est pour 3 ans le contrat que vous faites, ça.
Voilà, c'est
d'accord.
Ça.
Oui, va travailler avec telle personne, fait une petite tâche, une petite mission. C'est pas forcément le plus intéressant, le plus fulfilling, enrichissant, mais mm-hmm. tu rencontres les gens et ensuite ça te set up pour les années.
Exactement.
C'est cool.
Et après, une des missions que je me souviens, c'est que j'avais travaillé sur ce système clé en main. En fait, je faisais un prototype d'une application de réservation de tickets qu'on pouvait vendre à n'importe quelle compagnie ferroviaire. Donc en France, on a uniquement la SNCF. Après, ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Il y a énormément de pays qui ont plusieurs compagnies ferroviaires et certaines compagnies ferroviaires qui peuvent être... où les tickets sont offerts par d'autres compagnies. Donc c'est souvent dans les systèmes ou dans les gouvernements où c'est privatisé, où chaque ligne de train peut être gérée par une compagnie différente.
Ce qui est le cas maintenant en France.
Ce qui est aussi le cas en France, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Oui,
la SNCF a été... Mais ouais, donc moi je crée une application, ce qu'on appelait white label application. Donc ça veut dire qu'en fait il y a pas de branding et on peut genre l'idée c'est que d'un clic on avait cette application là, d'un clic je pouvais changer le branding pour que ça soit adapté par exemple à la compagnie ferroviaire.
Donc si la SNCF voulait acheter cette application par exemple, ils pourraient, voilà. Et en un clic, il y a le logo qui s'affiche et c'est brandé, personne ne sait que c'est vous qui l'avez fait,
c'est ça.
Pense que c'est SNCF.
Ils peuvent customiser cette application, mais l'application restera la même, que ce soit d'une compagnie ferroviaire à l'autre.
Tu te souviens quel type d'outil tu utilisais à l'époque?
Oui,
technologie.
Du coup, Amadeus commençait une migration vers un framework qui s'appelle Angular. Donc c'était... pas AngularJS, c'était Angular. Donc AngularJS, c'était la première version. Angular, c'était la deuxième version de ce framework. Du coup, j'utilisais ce framework. Donc c'était de Angular, c'était le framework. J'utilisais TypeScript, donc c'est un superset de JavaScript côté front-end. Et le back-end était développé en Java.
D'accord, donc ça t'a donné déjà une expérience assez bonne et globale de ces outils-là, oui. Au départ. Donc, 3 ans, tu te mets à travailler sur des missions plus... Enfin, sur cette application, j'imagine, plus en 2e et 3e année.
Ouais.
Ça t'a plu, au final ?
Ça m'a beaucoup plu, j'ai énormément appris. J'avais énormément de liberté sur, la façon dont je pouvais travailler. Et après, bon, ça, c'était une des premières missions, et c'était une des missions que j'ai trouvées assez intéressantes. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai pu travailler un peu plus sur les systèmes qui étaient... Ça, c'était plus un prototype qu'on montrait aux potentiels acheteurs. Lors des années suivantes, j'ai travaillé un peu plus sur des projets différents. 2 projets qui me viennent en tête, que j'ai beaucoup appréciés. Donc l'un, c'était de développer un système de sélection de sièges qui a été intégré par la suite à une des applications vendues par Amadeus. Donc une application qui était vendue à des agences de voyage. Donc certaines agences de voyage gèrent un voyage vraiment clé en main où ils gèrent la réservation de taxi, de train, d'avion.
Ah ouais.
Et d'hôtels. Et donc, évidemment, ils doivent réserver un billet de train. Donc, ils ont c'est vraiment une application qui gère absolument tout le voyage de A à Z. Du coup, moi, j'avais réalisé un composant qui permettait de choisir le siège de train lors d'un voyage.
Alors, c'est ce qui... moi, je me souviens des billets quand je réserve à la SNCF ou... Parce que c'est la SNCF, parce que c'est un autre site, je ne sais plus exactement, mais tu cliques sur... Et tu dis sélectionner le train, puis enfin, le siège.
Ouais.
Et toi, tu as un numéro, tu as une petite illustration du train.
J'ai bossé sur cette illustration.
Incroyable.
Montrer le siège du train, pouvoir le sélectionner, voir ça affichait quelques informations par rapport au siège, donc par exemple quel étage il était, quel était le numéro du siège, si c'était dans la direction du train où allait le train ou la direction inverse. Ça affichait aussi facilities qui étaient disponibles à côté, donc toilettes, la voiture bar, etc., etc.
Donc, tu dis qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont utilisé l'interface pour cliquer sur et prendre leur siège et dire « j'ai envie d'être plus près du wagon-bar ».
J'ai envie d'être loin des toilettes. Ou alors, je pense que moi, la fonctionnalité qui m'intéressait le plus, c'était on affichait aussi quelle était dans la SNCF, en tout cas, ils nous donnaient cette information-là. On avait l'information de la voiture famille, où il y avait beaucoup d'enfants. Et du coup, je pense que la majorité des gens choisissaient de s'installer loin de cette voiture.
Ah, c'est trop cool. Ouais. Moi, je regardais toujours, c'était par rapport à là où il y avait les bagages. Je préfère être à côté de mes bagages pour pouvoir les voir de visuel, notamment s'il n'y a pas d'arrêt.
En effet, on avait aussi cette information-là, les baggage racks.
C'est trop bien.
Et donc ça, c'était le premier projet. Le deuxième projet, c'était très différent. Donc j'ai bossé sur une librairie qui s'appelle NG Bootstrap.
Ok.
Alors, NG pour Angular, et Bootstrap, c'est une librairie UI. Donc en fait, c'est une librairie de composants... une librairie de composants très simples comme des boutons ou des formulaires, des tableaux, donc qui sont déjà stylisés. Et sur cette librairie-là, j'ai contribué à réparer quelques bugs liés à l'accessibilité.
D'accord.
Donc, s'assurer que tous les composants soient...
Et le bon contraste pour qu'on puisse les voir bien. Et...
Voilà, donc il y avait une histoire de contraste, mais ça, c'était plus lié au style. Donc ça, c'était interne à Amadeus sur notre implémentation, notre fork, si tu veux, de cette librairie. Mais sur la librairie de base, sur NG Bootstrap, celle qu'on offrait à tout le monde, là, j'avais contribué sur... il y avait quelques soucis d'utilisation, je ne sais pas exactement en mémoire les soucis exacts, mais par exemple... un des composants n'était pas implémenté correctement, c'est-à-dire qu'il ne respectait pas les règles d'accessibilité.
D'accord. Donc, vous ne pouvez pas cliquer dessus, par exemple, ou ce genre de choses, ou c'est plus...
C'est un peu plus subtil que ça. C'était, par exemple, si tu utilisais un logiciel, un screen reader, qui lit ce qu'il y a à l'écran, un composant n'était pas interprété correctement par certains screen readers.
Et si quelqu'un avait des problèmes de visibilité et qu'il demandait ça, voilà. L'application ne marchait pas comme elle devait marcher.
Exactement.
Et il fallait... Ah, ok, oh, super. Exactement. Intéressant.
Donc, je pense que c'était aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que, pour 2 raisons, donc non seulement c'est quelque chose de très visible, on a contribué à une librairie open source. C'est quelque chose qui est plus facile à vendre auprès des entreprises quand on cherche un travail, parce que les entreprises peuvent voir directement la qualité de nos contributions. Et d'un autre côté, ça permet aussi l'accessibilité, c'est une compétence qui est très recherché chez les développeurs web. Il y a peu de gens qui s'y connaissent bien en accessibilité.
Donc, tu as fait ces deux missions. Tu es chez Amedeus, tu fais ton apprentissage. Et là, il y a une grosse transition qui peut intéresser énormément de personnes qui regardent ce podcast. Il y a beaucoup d'étudiants ingénieurs toujours qui se demandent okay, comment je vais trouver mon premier travail. Et toi, ça fait un truc assez fou quand même. Tu as réussi à trouver ton premier travail en Australie.
Ouais.
Donc, je suis passé par là aussi, mais c'est quand même très particulier. C'est pas facile. Il y a peu de gens qui le font. Donc, comment est-ce que ça passe? Pardon. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? J'ai bien compris que tu n'es pas venu directement, enfin, tu as été envoyé sur une petite mission. Donc, comment est-ce que tu as réussi à te faire envoyer en Australie au tout départ et comment s'est passé pour toi cette transition?
Alors, ouais, c'est une très bonne question. Donc, ouais, je travaillais encore à Amadeus à ce moment-là. Et une des particularités de l'UTC, c'est que dans le contrat d'apprentissage, il est stipulé que l'étudiant doit faire une mission à l'étranger. Donc, pour certains de mes camarades de classe à l'époque, ils bossaient pour des entreprises françaises qui n'avaient pas forcément de bureau à l'étranger. Donc, ils ont dû trouver une sorte de mission, enfin, stage à l'étranger. L'UTC les aidait éventuellement. Moi, j'avais la chance de travailler dans une entreprise comme Amadeus, qui est une multinationale avec beaucoup de bureaux partout dans le monde. Et donc, figure-toi que mon premier choix n'était pas l'Australie. Mon premier choix à l'époque était...
États-Unis.
Exactement, les États-Unis. Forcément, j'ai grandi en regardant des séries américaines. J'avais toujours eu ce rêve américain. C'était difficile d'obtenir un visa qui m'aurait permis de travailler sur place. En plus, il y avait une restructuration en cours et la partie rail des US n'était pas forcément en train de fonctionner. Donc, il fallait que je change de... J'aurais dû rejoindre la partie, le groupe qui s'occupe de l'aérien ou de l'aéroport. Et je n'avais pas forcément les contacts nécessaires pour trouver un poste là-bas. Après quelques essais, avoir essayé de contacter quelques personnes, j'étais bloqué. Je n'arrivais pas forcément à à trouver les options ou les possibilités qui me permettraient d'effectuer ma mission à l'étranger aux États-Unis. Du coup, j'ai essayé de voir quelles étaient les autres options. Et en soi, il y avait trois options alternatives. Les deux plus faciles étant donc Bangalore en Inde, Francfort en Allemagne et Sydney en Australie. Du coup, le choix était assez facile.
Bah, Francfort, c'est très beau, très belle comme ville. Hein.
Alors, Francfort étant, oui, c'est une ville que j'aurais bien aimé visiter. Cependant, je pense que c'est, enfin, j'ai un passeport européen, j'ai un passeport français. Je trouvais dommage d'utiliser une mission une opportunité de faire une mission de 3 mois à l'étranger et de rester en Europe dans un pays où je ne parle pas forcément la langue. Ça m'intéressait moins. J'aurais toujours l'option de retourner à Francfort quand j'en ai envie. De la même manière, Bangalore, c'est quelque chose que j'aurais, enfin c'est une ville que j'aimerais bien visiter, alors je sais pas si tu connais Bangalore, mais de ce qu'on m'a dit, ça reste un pôle informatique. Et de la même manière, j'avais pas forcément aussi envie. On m'avait dit que travailler en Inde, ça restait quand même très différent de travailler en Europe. La façon de travailler était un petit peu différente, la façon de gérer les gens était un peu différente. Et j'avais quelques appréhensions. Je sais pas si c'était bien placé, mais j'étais aussi évidemment plus tenté par l'Australie. du coup, j'ai choisi de venir en Australie et c'était pas facile. Donc de la même manière, il y avait pas forcément j'avais pas réussi à obtenir de visa pour effectuer un stage. En fait, si on veut effectuer un stage en Australie, il faut être attaché à une université australienne. Et comme je travaillais pas pour, je travaillais pour une entreprise française, l'UTC n'avait pas d'université partenaire en Australie, que je sache. J'avais pas la possibilité de faire de stage.
Il y a des manières de faire, mais c'est dans tous les cas c'est complexe.
Ouais.
Mais en étant complexe, c'est pas évident non plus, il y a des limitations, bref. C'est possible, mais c'est vraiment galère. Et je pense que l'option que tu as choisie, c'est celle du Working Holiday Visa.
Exactement.
Et c'est la plus simple. Option visa, il faut peut-être 3 à 6 mois pour le mettre en place. Il faut être vraiment solide de tous les côtés. Même il faut avoir des gens en Australie qui connaissent le système australien. Mm-hmm. Working Holiday Visa, ça prend 24 heures.
Exactement. Et du coup, ce n'était pas quelque chose qui m'a été proposé par Amadeus. C'est moi qui suis allé les voir. Enfin, après quelques discussions, en fait, ils s'apercevaient qu'ils n'avaient pas non plus la possibilité de m'envoyer en Australie. Et du coup, le seul moyen, enfin, ce n'est pas quelque chose qu'ils m'ont dit, parce que légalement, ils ne pouvaient pas me le dire, mais l'un des seuls moyens qui était possible, c'était de demander de moi-même un Working Holiday Visa, de travailler en Australie sous un contrat local. Et du coup, j'ai dû mettre en pause mon contrat français, prendre un contrat local. Donc c'était quelques pirouettes légales pour pouvoir rester en Australie.
Ce que je trouve vachement intéressant, c'est que ce que tu dis, c'est il y a des choses que par moment les entreprises ne peuvent pas te dire parce que il y a des pour différentes questions politiques, légales. Et là, c'en est typiquement une de on peut pas te demander de faire ça parce que légalement l'entreprise n'a pas le droit de te demander de faire ce genre de choses.
Ouais.
Mais si c'est toi qui lui arrive avec cette solution-là, elle est très contente de dire oui.
Oui, exactement. Je pense que c'est quelque chose de un message que je souhaite faire passer, c'est que c'est important d'essayer de trouver toujours les moyens alternatifs sans juste compter sur l'entreprise pour tout faire. C'est de trouver par soi-même les opportunités et de se battre un petit peu, de faire les recherches nécessaires pour se donner les moyens de faire ce qu'on a envie.
Je suis d'accord. Je vais donner une anecdote parce que je trouve qu'elle est cool et elle est intéressante à donner aussi. Je n'ai jamais dit encore ce podcast, mais un truc qui est très similaire à ça que tu dois faire et qui ne sera jamais fait pour toi, c'est lorsqu'une entreprise est contracteur et qu'elle se fait virer à un grand niveau. En général, le projet sur lequel elle bossait, ils n'ont pas le droit de contacter les personnes individuellement pour leur demander de revenir. Mmh. Typiquement, je travaillais sur NorthConnex, un projet de construction. On avait des gens qui faisaient du design. À un moment donné, il y a eu une décision politique de ne plus travailler avec eux, travailler avec une autre entreprise. On n'avait pas le droit de les contacter. Par contre, si eux nous contactaient, on avait le droit de leur répondre. Mais il était interdit, en fait, dans le contrat, parce que c'était une question de non-concurrence, on n'avait pas le droit de débaucher des employés. Et légalement, on avait tous été informés. S'il y en a un seul d'entre vous qui envoie un message en premier, vous pouvez être viré parce que c'est illégal, c'est votre responsabilité. Et donc, même si tu as envie, alors on a des gens de l'autre côté, on était là, on aimerait vraiment qu'ils viennent bosser pour nous, donc si on contacte, on serait super heureux de les embaucher. Mais interdiction totale, et donc si on reste et on ne fait rien, comme tu dis, si on est là en mode l'entreprise ne me contacte pas, ils ne veulent pas de moi, non, on n'a pas le droit. Donc venez, contactez-nous, mais il faut que tu sois proactif un peu, et je pense que c'est une super leçon à donner.
En effet, ouais, c'est les clauses de non-compétitivité, c'est ça. Ouais.
C'est un truc comme ça, plus on peut. Ouais.
Je me souviens que j'en avais une dans mon contrat où je ne pouvais pas travailler pour une autre. Enfin, le compétiteur principal d'Amadeo, c'était Sabre, et du coup, je ne pouvais pas travailler pour Sabre. Ou en tout cas, je ne pouvais pas. Sabre ne pouvait pas forcément m'embaucher pour certaines missions spécifiques.
C'est ça.
Très intéressant comme anecdote.
Donc là, tu arrives, on revient tu arrives à avoir un contrat avec l'entité australienne.
Oui.
Est-ce que pour ça, il faut d'abord que tu viennes en Australie ou tu fais tout depuis la France? Comment ça se passe cette jonction entre le moment où tu es en France, tu mets ton contrat en pause et tout ça, mm-hmm. et le moment où tu prends ton billet d'avion et tu pars en Australie? C'est quelle temporalité?
Alors, j'essaie de me souvenir. En attendant que je me souvienne, juste pour commencer, comment ça s'est passé. Donc, j'ai eu la chance du coup de rencontrer un des managers du pôle australien en France. Il était venu donc dans les bureaux français pour parler avec d'autres directeurs, ça pourrait un petit peu décider de ce qui allait se passer sur les années à suivre. J'ai rencontré cette personne-là. C'est grâce à lui que j'ai pu rentrer en contact avec certaines personnes en Australie qui ont pu m'aider à faire tous ces contrats.
Lui, il est australien ou il est français?
Il est australien.
D'accord.
Et c'est grâce à un manager côté français, enfin un senior manager côté Amadeus France, que j'ai pu le rencontrer. Une fois que les papiers étaient signés, tout s'est passé assez vite. Je pense que, de mémoire, ça s'est fait à peu près 2 mois avant le début de la mission. Donc, ça me donne quand même pas mal de temps pour un peu préparer mon voyage.
Donc là, t'as pris ton vol, t'as fait toutes les démarches administratives pour les papiers.
Ouais, donc c'était très facile, hein, obtenir un visa vacances-travail pour l'Australie, c'est quelque chose de très facile. Je pense que j'avais fait la demande, le temps de mettre le dossier en place. Mettre le dossier en place, ça m'a pris un peu de temps. Mais une fois que la demande était effectuée, je crois que j'ai eu la réponse dans l'heure qui suivait. Hein. C'est des réponses c'est accepté de manière automatique.
Petite pause, si vous aimez ce podcast, que ça vous intéresse et que vous voulez soutenir mon travail, il y a une chose que je vous demande, ce serait de pouvoir mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast comme Spotify ou mettre un like sur YouTube. Ça a l'air de rien, mais c'est gratuit et ça aide énormément le podcast à se développer, à être connu par d'autres personnes et à gagner aussi en crédibilité pour que je puisse contacter des plus grosses entreprises et faire des belles collaborations. Voilà, merci beaucoup, bonne écoute, on reprend.
Et là, donc, tu fais ta mission et comment ça se passe le passage entre, on te rappelle en France? Oui, bonjour Thibault, on vous demande pour finir votre diplôme et et finir l'apprentissage.
Ouais.
Et mais je vais rester, je vais trouver un job dans l'une des deux plus grosses startups australiennes, Canva. Comment elle se passe cette transition, quoi? T'es pas revenu en France? Est-ce que t'es resté sur place? T'as rencontré un manager par hasard? T'as vraiment cherché? Qu'est-ce qui t'a fait rester? Parce que tu dis, tu vas en Australie, moi je me dis, bon, il va 3 mois, il travaille un peu, il va à la plage, il profite, et puis il revient. Je me dis pas, il va chercher un travail en même temps. Comment ça s'est passé pour toi?
Bah, figure-toi que j'avais quand même beaucoup de travail pendant cette période-là, que ça soit sur le dans l'entreprise où j'ai, enfin dans la mission en Australie, j'avais quand même un peu de travail à faire, pas mal de travail à faire. Et en plus de ça, c'était vraiment à la fin de mon diplôme. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'avais aussi, c'est pas vraiment une thèse, mais c'est genre j'avais un document à rédiger qui devait être assez long. Je crois que c'était un document de 40 à 50 pages sur tout ce que j'avais réussi à, enfin tout ce que j'avais réussi à faire pendant ces 3 années en apprentissage, une présentation d'entreprise, de la façon dont Amadeus s'était organisé,
une sorte de rapport de stage, mais un rapport d'alternance sur les 3 ans.
Voilà, un rapport d'apprentissage, ouais. Une fois que ce rapport de stage était effectué, comme j'avais dû travailler un petit peu en Australie, j'ai pas eu forcément le temps de prendre de vacances, j'ai pas eu forcément le temps de visiter. Mais pour le peu que j'avais visité, le peu de temps que j'ai passé en Australie, beaucoup aimé l'Australie. Je suis tombé un peu amoureux de l'Australie. Et je me suis dit que j'avais envie de rester plus longtemps. Du coup, je prends la décision de rester un peu plus longtemps. Mon plan à la base, c'était de trouver un travail qui me permet... Parce que, enfin, évidemment, j'étais à la fin de mes études. Je ne roulais pas sur l'or. J'avais besoin de sous pour pouvoir financer mes voyages. Du coup, l'idée, c'était de trouver un travail qui me permet... dans lequel je pouvais travailler 6 mois, 1 an, pour derrière avoir un peu d'argent pour visiter l'Australie.
J'ai une question quand même là. Tu te dis, j'ai décidé de rester en Australie.
Ouais.
Moi, je suis ton école, tu as une soutenance d'apprentissage à faire. Il faut quand même que tu reviennes pour pouvoir la faire. Et Amadeus, ils ne sont pas en mode, tu ne peux pas revenir pour commencer ton job chez nous? Il n'y a pas de la pression de ce côté-là?
Alors si, justement. Ouais, donc, tout s'est décidé à la fin de cette mission. Comme la soutenance m'avait pris pas mal de temps, donc je travaillais...
Mais tu as pu la faire à distance, la soutenance?
Je l'ai fait à distance, la soutenance de stage, d'alternance. Mmh. J'avais donc 1 mois de travail et ensuite, à la fin juillet... j'avais un call avec mon manager en France pour un peu de parler de mon futur dans Amadeus. Il me proposait non pas de rejoindre Amadeus, mais de travailler pour une compagnie en tant que contractor dans Amadeus.
C'est bizarre.
Oui, c'est assez bizarre et j'ai trouvé ça un petit peu... c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait.
Non, surtout, ça fait 3 ans que tu es en apprentissage. Ouais. Soit ils sont contents et ils t'embauchent en full-time.
Ouais.
Tu as déjà fait 3 ans, entre guillemets, d'essai,
ouais.
Où tu as prouvé que c'était bon.
Ouais, écoute, je pense qu'il y avait...
Toujours histoire de budget, hein, c'est pas forcément les...
Il y avait une question de budget, je pense qu'il y avait peut-être quelque chose de pas de personnel, mais c'était mon N+2 et c'était pas forcément, après en avoir parlé avec mon N+1 et le N+2 qui m'a permis d'aller en Australie, c'était un petit peu personnel. Quoi qu'il en soit, j'ai choisi donc de refuser cette offre. J'ai pas choisi immédiatement de refuser cette offre. Je lui ai dit que j'allais réfléchir. Et,
ça sert à rien de refuser tout de suite, donc autant je vais réfléchir.
À ce moment-là, donc ça c'était fin juillet, j'avais déjà pris la décision de rester un peu plus longtemps en Australie et je m'étais donné pour but de passer les 2 semaines que j'étais en vacances à trouver un travail en Australie. Et à ce moment-là, c'était vraiment devenu, comme j'avais un temps très limité, je m'étais vraiment bien organisé. Donc j'avais créé un dashboard sur Trello, je ne sais pas si tu connais cet outil. Où j'avais toutes les entreprises auxquelles j'avais postulé. Donc, et j'avais envoyé, me semble, peut-être 50 applications différentes, peut-être même 70 applications. Et je traquais sur cette dashboard le statut de cette application. Donc, est-ce que je venais juste d'avoir fait une demande? Est-ce que j'avais commencé les entretiens? Est-ce que j'avais une offre? Et comme j'avais que quelques semaines en Australie, j'essayais de provoquer un petit peu d'urgence, mais de communiquer aux entreprises que j'avais pour but de trouver quelque chose assez rapidement. Et c'était 2 semaines très intenses, 2 semaines, 1 mois très intenses où ça m'est arrivé de faire 3 entretiens avec des entreprises différentes dans la même journée. Et au final, au bout d'à peu près, donc j'avais commencé fin juillet vers, disons, le 20 juillet, Et j'ai eu une offre 5 jours avant mon retour prévu pour la France.
Ah ouais, juste à la limite.
Donc juste à la limite, j'avais eu plus qu'une offre. Je crois que j'avais eu 4 offres au total.
C'est incroyable.
L'entreprise, donc j'avais quand même l'embarras du choix.
Mais tu ne demandais pas un sponsor à ce moment-là, parce que tu avais le visa de travail, donc c'était pour un contrat court que tu demandais, c'était un...
Non, je cherchais, donc je disais que j'avais juste un visa de vacances-travail, mais que j'étais ouvert à l'idée de faire un sponsor.
Pour pouvoir rester en Australie ensuite, quoi.
L'idée, c'était de rester en Australie. J'avais pas forcément, je disais pas forcément aux entreprises que mon projet, c'était de travailler 1 an et après de voyager.
D'accord.
Je leur en faisais pas part.
Et c'est une bonne idée parce qu'en général, quand tu dis ça, ils disent bah, pourquoi investir sur lui alors que si tu dis que je suis prêt à rester, est-ce que tu as fait au final?
C'est ce que j'ai fait, oui.
Donc, meilleure approche. Ok.
Donc voilà, après donc, ces 2 semaines très intenses, 2-3 semaines très intenses de recherche de travail, j'obtiens une offre de Canva. Donc à l'époque, Canva, c'était pas du tout l'énorme structure que c'est aujourd'hui. Il y avait peut-être 300, 400 employés maximum. Ça commençait juste à être connu. En France, je pense qu'à cette époque-là, j'en avais pas l'air autour de moi, et peut-être une personne sur les 100 à 200 personnes que j'avais, à qui j'en avais parlé, m'a dit « Ah ouais, je connaissais, j'ai fait mon CV sur Canva. » Mais alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment household.
Je pense que quand c'est connu, je devais déjà connaître, mais pas comme quelque chose d'énorme qui était en train de grimper, mais plus comme j'ai fait justement une miniature YouTube dessus. Et je venais à peine de switcher, je crois. Je crois que c'était vraiment au moment où on s'est rencontrés, je venais de découvrir Canva en mode « Ah, c'est cool, ça permet de faire… c'est pratique !» Mais voilà. Mais c'est vrai que maintenant, c'est pour ceux qui connaissent… Enfin, qui connaissent pas soit de nom, soit qui sont pas au courant, c'est une entreprise australienne qui est l'une des deux plus grosses startups, une unicorn d'Australie avec Atlassian. Ouais. C'est vraiment une entreprise qui est extrêmement cotée et qui…
Tout à fait.
D'entre à ce moment-là, quand il y a 300-400 personnes, c'est toujours le moment où ça ramp up, ça grossit.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement chez eux au départ? Pourquoi eux plutôt qu'une des autres offres? C'est ça notamment la question.
Bonne question. Ils avaient une offre, donc ils m'ont fait une offre qui était très intéressante, financièrement parlant. Et pour être honnête, quand j'ai passé mes entretiens, une des questions qui revient souvent, c'est alors est-ce que vous connaissez Canva? Est-ce que vous savez ce que l'on fait, ce sur quoi vous allez travailler? Et j'étais très honnête, je leur ai dit, écoutez, j'ai fait quelques recherches, mais avant de faire une demande d'emploi, je ne connaissais pas du tout, je ne l'avais jamais utilisé, mais ça a l'air très intéressant. Et plutôt que de dire ce que moi je connais d'eux, je leur ai posé plein de questions par rapport à ce qu'ils proposent et leur vision, quoi. Donc, j'ai montré que j'étais intéressé, non pas dans ce qu'ils sont aujourd'hui, mais vraiment ce qu'ils veulent devenir. Et je leur ai dit, sur ce qu'ils voulaient devenir, j'ai essayé de trouver les points sur lesquels j'avais quelque chose à apporter. Et donc, par exemple, ils voulaient vraiment s'étendre sur le... à l'époque, c'était vraiment un outil B2C, mais ils avaient pour projet de devenir un outil B2B. Mais
business to consumer et business to business, donc orienté... Non pas seulement pour les individus qui vont utiliser comme ce que tu fais avec Miniature, mais vers des entreprises qui vont l'utiliser d'un point de vue corporate et le remplacer par exemple, pas forcément le cas, mais PowerPoint ou Adobe Photoshop par Canva chez les employés.
Exactement. Et pour revenir sur mes compétences techniques, donc en accessibilité,
fais la transition, moi j'allais la faire, donc c'est super, vas-y.
Si une entreprise souhaite offrir son outil à d'autres entreprises, il y aura très souvent des contraintes gouvernementales. Donc, par exemple, il faut que certains outils, si un outil doit être utilisé par exemple par une école ou par une université, il doit être accessible. Il y a des règles gouvernementales qui obligent les entreprises informatiques à créer un outil qui est accessible par tous.
Oui, pour ne pas discriminer l'usage. Exactement. Et rendre des... Par exemple, tu parlais d'école. Si un outil n'est pas accessible à tout le monde et que tu as une personne avec un handicap, visible ou invisible, et que cette personne est discriminée à cause de ça parce qu'elle ne peut pas voir, sur un exemple très bateau, mais si le contraste n'est pas bon et qu'elle est daltonienne sur un type de couleur et que ce n'est pas pris en compte, pourquoi est-ce que cette personne aurait une moins bonne note et donc sera potentiellement discriminée dans le futur sur sa recherche d'emploi ou d'université à cause d'un outil informatique? Donc, ces règles sont là pour, avec beaucoup plus de subtilité et bien entendu de... ça encompasse plus de choses, c'est plus global, mais c'est là où ton expérience d'avant a pu les intéresser, t'as pu montrer que c'était valable.
Tout à fait.
Ah, c'est trop cool. Et ils étaient réceptifs à ça ou dans l'entretien, ou c'était des choses auxquelles ils avaient déjà pensé, c'est toi qui l'as mis en premier ou...
Je saurais pas dire, mais j'imagine que s'ils m'ont fait une offre, c'est qu'ils ont été soit réceptifs, soit ils y avaient déjà pensé avant.
Ouais.
Mais ouais, donc c'était... C'est pour ça que j'ai choisi, c'est pour ça que j'ai choisi Canva. Je pense que j'ai trouvé cet entretien particulièrement intéressant. J'ai été conquis par tout ce qui m'offrait sur le plan professionnel et personnel. Les bureaux me paraissent intéressants. J'ai pu faire quelques rencontres lors de mes entretiens avec des employés qui y sont toujours aujourd'hui. Mais ouais, je pense que les autres entretiens m'ont moins marqué, disons.
Donc ça, c'est ce qui t'a aidé. Il y a une autre chose quand même, c'est trouver en un mois 3 ou 4 offres d'emploi. Mm-hmm. Même si tu as passé tout ton temps, c'est hyper efficace. Je pense que c'est un effet conjoint de plusieurs choses. Le domaine aide énormément. Forcément, ingénieur en informatique, c'est très recherché partout, toujours mm-hmm. maintenant, toujours à l'époque. Mais aussi, j'aimerais juste qu'on revienne sur le fait que tu as fait de l'apprentissage. Je sais que moi, je suis venu en Australie. J'avais 1 an et demi d'expérience parce que j'avais fait une gap year, une césure. Mm-hmm. Mais même avec 1 an et demi, c'était dur. Toi, tu arrives avec 3 ans. Est-ce que tu as senti que ça avait un impact sur le recrutement, sur l'image que tu avais par rapport au recruteur?
Alors oui, tout à fait. Je pense que sans apprentissage, j'aurais jamais pu trouver de travail en Australie pour la simple et bonne raison que si on souhaite décrocher un sponsorship, il faut justifier de moins 2 ans d'expérience. Et même si l'apprentissage n'est pas forcément reconnu comme... une expérience à plein temps, ça reste une gray area de la loi du travail. J'ai pu utiliser donc j'avais fait ces 3 ans d'apprentissage. On pouvait au moins faire correspondre ça à 1 an et demi de travail. Et derrière, j'ai pu utiliser des stages ou d'autres expériences de travail plus ou moins liées à l'informatique comme étant des premières expériences. Et ça m'a permis d'obtenir 2 ans. Enfin. Au moins plus de 2 ans d'apprentissage.
Enfin, ouais, d'expérience totale pour le visa.
Exactement.
Ce qui est bien avec le Working Holiday aussi, c'est que tu peux faire tes 6 premiers mois en Australie, peuvent aussi de travailler pour Canva, pourraient compter. Exactement. Que tu additionnes à tes 1 an et demi, et donc ce qui fait que tu es au-delà de la limite pour pouvoir. C'est une question de visa, mais c'est important et, ouais. Et j'imagine que ça t'a aidé à la fois d'un point de vue visa, mais aussi d'un point de vue expérience professionnelle pour te démarquer d'autres candidats.
Bien sûr, en Australie, quand j'ai fait mes entretiens, quelque chose dont je me souviens, c'est qu'ils m'ont absolument pas demandé quelle était mon éducation. Ils m'ont pas, ils ont, enfin, même si, enfin, je leur ai dit que j'avais un diplôme d'ingénieur, ou en tout cas que j'allais l'avoir dans le mois à suivre parce que j'avais passé tous mes examens. C'était pas forcément quelque chose qui les intéressait énormément. Ils s'intéressaient beaucoup plus à mon expérience et à ce que je pouvais leur apporter professionnellement, pardon.
D'accord. Et une fois que tu as commencé à travailler en Australie, une question qui est intéressante, je pense surtout dans ton cas où tu as fait des métiers similaires et tu as eu ce France-Australie, est-ce que tu as les différences de management, mais plutôt de manière de travailler que tu as pu remarquer entre ce que tu as pu faire en France quand tu étais notamment dans tes dernières missions, donc tu étais plus comme un employé entre guillemets à temps plein pour l'entreprise en apprentissage, et ce que tu as pu voir à Canva ensuite en Australie, et même potentiellement avec tes 3 mois en mission en Australie.
Même si j'ai beaucoup parlé d'Amadeus, j'ai fait quelques stages avant l'UTC, et j'ai toujours essayé de viser une diversité dans les expériences de travail. Donc un de mes premiers stages, c'était en bureau de recherche, donc en Irlande. Mon stage en licence, c'était dans une start-up, donc vraiment une toute petite structure, 5 employés. Et Amadeus, justement, ça restait dans une grosse entreprise. Donc, j'avais quand même vu 3 milieux extrêmement différents. Même si l'un d'entre eux était en Irlande, j'ai trouvé que le mode de travail, la façon de travailler en Irlande était relativement proche de la façon de travailler en France. Après, je ne sais pas si c'était un peu lié à... le fait qu'Amadeus soit une grosse entreprise, mais j'ai vu par certains employés, donc les contracteurs étaient beaucoup plus de 9h à 17h, et les employés, il y avait un peu de présent, j'ai trouvé un peu de présentéisme que je n'ai pas forcément vu en Australie. J'ai aussi trouvé qu'en Australie, c'était plus naturel de faire confiance à l'employé. Tant qu'il fait son travail, on ne va pas forcément lui demander d'être présent au travail entre 9h et 17h. Il y avait, En tout cas, à Canva, ils étaient plus ouverts à ce qu'on appelle le flexi-time, donc c'est de travailler vraiment les horaires qui t'arrangent. Si tu as besoin d'aller chez le médecin, tu n'as pas besoin de poser ta journée, tu vas juste chez le médecin, tu reviens après.
C'est vrai que ça, par rapport à la France, c'est un exemple tout bête, mais tellement pratique de tu dis je vais aller chez le médecin à 11h, mm-hmm. bon, bah, tu pars à 10h30, tu reviens à 12h30 ou à l'heure à laquelle tu ouais. reviens, et on va même pas vérifier que tu vas faire les heures, mais c'est normal que toi ouais. tu dises bah, je vais finir un peu plus tard aujourd'hui ou je vais commencer mm-hmm. un peu plus tôt. Et les gens ne sont pas sur ton dos, mais tant que tu fais bien ton travail, bien entendu.
Exactement. Je pense qu'ils vont aussi plus juger de tes performances via ton impact plus que ton input. Tu vois, c'est input versus output. Donc, ils vont vraiment essayer de juger tes performances par rapport à est-ce que tu atteins tes targets, mais non pas est-ce que tu as travaillé tant d'heures cette semaine.
Ouais, ça fait sens.
Ouais, ce qui fait beaucoup plus sens d'ailleurs.
Ce qui est beaucoup plus agréable, et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle on peut avoir tendance à vouloir rester ici, apprécier le cadre de vie et l'environnement de travail aussi, ça compte énormément.
C'est vrai.
Et donc toi, ça fait 5 ans maintenant que tu travailles pour Canva.
Oui.
En tant qu'ingénieur front-end, c'est ce que tu disais. Heureux au final, bah, j'imagine que la réponse est oui, parce que ça fait 5 ans, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué sur ces 5 ans? Est-ce qu'il y a eu une évolution ou des missions particulières dont tu es particulièrement fier ou quelque chose qui te plaît particulièrement?
Alors oui, forcément, je suis extrêmement épanoui. Hein. Je ne resterais pas 5 ans dans la même entreprise si j'étais malheureux. Alors j'essaie de réfléchir à une des missions particulières qui m'ont marqué, mais je pense à... Ouais, il y a quelques missions qui me viennent en tête. Avant de parler des missions, je pense que ce qui m'a vraiment le plus intéressé à Canva, c'est de pouvoir... Enfin, Canva, c'est un petit peu... Je vois un peu ça comme Google il y a 20 ans. C'est vrai, t'as vraiment une croissance qui est unique. Il y a très peu d'entreprises qui peuvent montrer une telle croissance dans les 10 années précédentes. Et voir ça de l'intérieur, c'est quelque chose d'espéré. Enfin, jamais je m'attendais à ce que Canva, quand j'ai rejoint cette petite structure, relativement petite structure de 300-400 personnes, qu'elle devienne aujourd'hui cette organisation de 4 à 5 000 employés partout dans le monde, cette entreprise qui, quand je l'ai rejoint, elle n'était pas cotée en bourse, elle n'est toujours pas cotée en bourse, mais elle valait à peu près 1 milliard 600 millions US dollars. Aujourd'hui, elle est évaluée à 26 milliards de dollars, donc évidemment ça vient avec beaucoup plus d'investisseurs, beaucoup plus de bureaucratie aussi. Mais ça reste toujours très enrichissant.
Et cette croissance que tu as pu voir autour de toi, en concret, est-ce que ça a impacté ton travail? Est-ce que ça a impacté les relations avec les autres personnes, les couches de management peut-être? Comment ça s'est concrétisé autour de toi, de ce que tu peux nous en dire, hein, bien sûr?
Oui, bien sûr. Alors oui, je pense que ça, il y a énormément de plus de, comme ça a grossi, il y a eu besoin énormément de plus de managers. Et je pense que quand j'ai commencé, je travaillais directement avec les CEO. Enfin, je faisais 2-3 meetings avec avec Cliff, un des executive officers, un des fondateurs de la boîte. Aujourd'hui. J'ai plus ces opportunités-là. Mais c'est pas dramatique, c'est juste qu'il a d'autres responsabilités, il s'intéresse à la big picture, il s'intéresse moins au travail de telle équipe. Et j'ai toujours trouvé ça très intéressant de pouvoir travailler avec aussi proche des fondateurs, qui avaient vraiment une vision et sur le très long terme.
Tu parlais d'accessibilité tout à l'heure. J'imagine que entre le moment où c'est une petite solution et le moment où on fait un audit, on met en place les features,
ouais.
maintenant il faut s'assurer que toutes les features sont absolument totalement accessibles, ouais. et donc tu as forcément des couches supplémentaires. Tu as pu travailler un peu sur ce genre de features au final d'ailleurs ou pas, sur tout ce qui était accessibilité
Ouais, j'avais fait un audit d'une des pages que j'avais créées. Donc, quand j'ai commencé à Canva, j'ai rejoint l'équipe Marketplace. Donc, c'est une équipe d'une petite... On était une petite quinzaine de personnes. Et on crée toutes les pages qui permettent aux utilisateurs de visualiser les templates ou les modèles et les éléments. Donc, cet élément, c'est les photos, les vidéos, les icônes disponibles sur Canva. On a créé un système qui a permis de montrer ces... Je crois qu'on a peut-être plus de 100 millions de... Attends. On doit avoir une vingtaine de millions de modèles à travers le monde. Donc évidemment, ça considère aussi toutes les langues différentes, toutes les... peut-être plus à 5 millions de modèles.
Plusieurs millions de modèles.
Plusieurs millions de modèles.
De toute façon, personne ne va aller...
Je peux regarder les stats si tu veux.
Non, mais personne ne va aller... Enfin, de toute façon, voilà. Plusieurs millions de modèles, ce qu'il faut afficher, enfin, ou qu'il faut pouvoir aller chercher les bonnes informations, c'est énorme, c'est une grosse quantité de choses. C'est pas... T'en as pas 5, quoi. T'en as 5 millions.
Voilà.
C'est déjà...
Au moins 5 millions de modèles et sûrement, je pense, peut-être 10, même... Peut-être même 20 millions d'éléments, que ce soit des photos, des icônes, des vidéos, des sons ou des formes qu'on peut utiliser dans Canva. Donc, c'est super intéressant de travailler sur ça. D'un point de vue technique, on utilisait des techniques qui sont toujours assez modernes sur comment réaliser ce système-là. Donc, ces pages-là, c'était un petit peu la vitrine. La marketplace, c'était vraiment la vitrine de Canva. Quand beaucoup de gens... La plupart des gens qui arrivaient sur Canva découvraient ça parce qu'ils avaient un besoin précis. Par exemple, ils recherchaient un exemple bidon, c'est un dentiste qui cherche à faire un flyer pour une promotion. Donc, il va chercher dentiste, flyer, flyer pour promotion de dentiste. Et il va tomber sur un flyer de promotion sur dentiste sur Canva. Et c'est comme ça qu'il va commencer à l'utiliser. Et donc c'était les premières pages qu'ils voyaient. Et donc il y avait c'était extrêmement intéressant parce que donc non seulement il y avait des besoins de il fallait que ces pages-là soient extrêmement performantes, qu'elles s'affichent en le moins de temps possible, un peu comme les mêmes contraintes que Amazon a avec ses produits. Et si on veut apparaître en haut des résultats sur Google, il faut que ces pages-là soient aussi accessibles. Du coup, j'ai fait un audit de l'accessibilité sur ces pages-là pour trouver là où il y avait des problèmes. Et réparer ces soucis-là.
Ah,
donc c'était très intéressant. J'ai pu utiliser mes compétences en accessibilité et j'ai pu apprendre plein de compétences, que ce soit en performance, que ce soit en architecture aussi, de faire en sorte que ça, comme l'équipe grandissait, on avait cette équipe marketplace. Quand j'ai rejoint, on était peut-être une quinzaine, donc une ou deux équipes multidisciplinaires. Aujourd'hui, il y a plusieurs équipes, 50 ingénieurs dans plusieurs équipes, au moins 50 ingénieurs dans plusieurs équipes, dans l'équipe Marketplace uniquement. Et évidemment, dans le groupe que j'ai rejoint, à l'époque, on devait être peut-être 50. Aujourd'hui, on est 250 ingénieurs et ça ne compte même pas tous les designers qu'il y a, tous les product managers et les managers, évidemment.
Ah, c'est incroyable. Quelle expérience de fou quand même sur l'évolution, plus en Australie. S'il y a un ingénieur qui nous regarde et qui, à ce moment-là de la vidéo, qui est vraiment intéressé par le domaine et par le pays aussi, s'il y avait un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui est un peu plus jeune et qui cherche à avoir un type de carrière similaire, qu'est-ce que ça pourrait être ? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, toi, au moment où tu as commencé, quelque chose dont tu n'avais pas forcément conscience, qui aurait pu être utile pour peut-être être un peu plus performant ou ne pas avoir autant de problèmes au départ pour réussir à soit trouver un travail, soit dans le travail en lui-même ? Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune ?
C'est une très bonne question. Je pense que j'aurais envie de dire, si jamais je devais me parler à moi dans le passé, ou enfin si j'avais cette opportunité-là, je pense que mon conseil, c'est de vraiment chercher toutes ces petites opportunités qu'on a de par exemple, de pouvoir travailler en Australie, de pouvoir travailler à Canva, et d'apprendre à les identifier et de se donner les moyens de prendre ces opportunités et d'en tirer un maximum. Donc vraiment de toujours rester à l'écoute de ces opportunités-là et pas de se fermer des portes juste parce qu'on ne souhaite pas forcément déménager, parce que la vie d'expatrié nous fait peur. Parce que oui, forcément, ça vient avec la vie d'expatrié vient avec ses challenges, mais ça, si jamais j'étais resté là où je suis né, à Poitiers, je ne pense pas que j'aurais pu... avoir eu cette carrière et la vie que je mène aujourd'hui, quoi.
Je suis d'accord, et ce qui est aussi hyper intéressant dans ce que tu as dit dans cette discussion, c'est que tu as des opportunités, tu as des chemins qui ne sont pas forcément faits par d'autres. Genre, par exemple, ton histoire de visa quand tu as voulu venir en Australie pour Amadeus. Mm-hmm. Et que si vous faites les choses, tout ce qu'on voit autour de nous, c'est écrit par quelqu'un. Les gens, ils ont des carrières parce qu'ils ont pris des décisions, ils ont été proactifs.
Ouais.
Et qu'on ne peut pas s'attendre à avoir une carrière différente dans un pays particulier si à un moment donné, on n'est pas proactif et qu'on ne se dise pas « Bah, ok, il n'y a pas de solution toute faite, bah, je vais la faire. » Parce que oui, il faut bien qu'il y ait une première personne qui le fasse, que tu fasses un pari d'aller dans une entreprise qui va énormément grandir. Bah, faut bien que les gens qui fassent ce pari-là au départ. Et je trouve que c'est, tu reprends vraiment cet exemple de « Sois proactif, fais des choses, tu bidouilles quand tu es jeune, fais des choses aussi ensuite, soit arrive avec des solutions. » Et si tu es proactif comme ça, tu peux te créer une carrière assez unique.
Oui, c'est vrai.
Non, mais en tout cas, je te remercie d'être venu sur le podcast, Thibaut. C'était un plaisir. Enfin, on est chez toi, là, au final. Merci de nous accueillir dans ce bel environnement avec le Kookaburra qui est ici, qui est l'oiseau typique australien.
Exactement.
Absolument. Et tu nous as montré, je vous montrerai peut-être à la toute fin pour ceux qui sont toujours là, tu nous as montré comment faire un super café. Mm-hmm. Donc, ça fait combien de temps que tu fais du café maintenant?
J'ai commencé pendant le Covid, donc il y a peut-être 2-3 ans maintenant. Ouais. Il y a 3 ans, je me suis acheté une machine à café parce que je dépensais énormément d'argent. Enfin, tous les jours, j'allais chercher 1 à 2 cafés. En plus de ça, je prenais éventuellement un croissant ou quelque chose à manger parfois. Et du coup, ça me coûtait très cher en café. Du coup, j'ai choisi de m'acheter une machine à café pour pouvoir les faire à la maison. Et j'ai vraiment aimé ce processus de toujours essayer de s'améliorer. Je trouve que faire un café, c'est quelque chose de très scientifique. C'est pas comme cuisiner, c'est un peu différent de la cuisine. Où on peut cuisiner de manière un peu aléatoire. Le café, ça demande précision constance, et je trouve que c'est quelque chose que j'aime bien faire.
Mais en tout cas, il était très bon. J'ai vu à quel point tu mettais la méthode d'ingénierie dans la recherche, même, parce qu'on a été, on s'est retrouvé une fois à Byron Bay, et tu étais chercher des grains de café spécifiques qui venaient de tel endroit pour pouvoir justement goûter, continuer à explorer les saveurs.
C'est ça.
Donc, en plus de ça, expert en café, bah, merci beaucoup Thibaut d'être passé sur le podcast.
Et merci à toi surtout de m'avoir invité. J'ai passé un super moment et j'espère que tes auditeurs passeront aussi un super moment en écoutant ce podcast.
Merci d'avoir été là.
Et pour un autre podcast avec un ingénieur en IT, si vous êtes sur YouTube, il s'affiche à l'écran un super épisode avec un autre ingénieur en informatique. Si vous êtes écouté sur les plateformes de podcast, un grand merci à vous. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça aide énormément le podcast vraiment. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye.